Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Bon, depuis début avril, c'est une histoire qui est un peu passée sous le radar, là. Il y a un petit équipage canadien qui est en détention arbitraire en République dominicaine pour avoir signalé la présence de 210 kg de cocaïne à bord de leur avion. Et le dossier avance pas malgré les échanges diplomatiques. Je rappelle, ces gens-là sont encore en prison là-bas en République dominicaine. On va parler de tout ça avec le représentant de l'Association des pilotes de ligne du Canada, Louis-Éric Mongrain. Monsieur Mongrain, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé en avril en République dominicaine pour cet équipage canadien?
Oui, l'équipage canadien opérait un vol de retour de Punta Cana vers Toronto. Puis durant l'inspection pré-vol, le mécanicien a repéré des sacs à l'intérieur de ce qu'on appelle la baie d'avionique. C'est pour situer les gens. C'est l'endroit juste en dessous du cockpit où tous les instruments de bord, les ordinateurs qui fournissent l'information aux instruments de bord se situent. En ouvrant la porte, il s'est rendu compte de la présence des sacs. Tout de suite, l'équipage a rapporté la présence de ces sacs-là à leur compagnie, à la GRC, qui, eux, ont fait suivre aux autorités dominicaines.
OK. C'était quel type de vol?
C'était un vol nodisé. Il amenait des investisseurs albertains du Canada vers la République dominicaine, puis ils venaient de conclure leur séjour et puis rentrer au Canada.
Donc, un petit avion, là, c'est pas un avion de ligne, là.
Non, c'est un CRJ-100, donc en configuration de ligne, peut quand même avoir 50 personnes à bord, mais okay. Eux, en confirmation nodisée.
OK, donc l'équipage a vu la drogue, on a eu la présence d'esprit d'alerter les autorités. Pourquoi est-ce qu'on les a arrêtés?
Ben, c'est une bonne question. Il faut aussi savoir qu'au moment de dire que la présence des sacs, de rapporter la présence des sacs, leur contenu était inconnu, ça aurait pu être n'importe quoi. Donc, c'est la procédure à faire. Puis, une fois qu'on s'est rendu compte que c'était de la cocaïne, ben là, on les a mis en état d'arrestation puis on les a envoyés dans une prison dominicaine.
Et là, depuis ce temps-là, ils sont détenus?
Ben, ils sont détenus. Ils ont été détenus dans la prison comme telle pendant quelques jours. Et puis, on a fait savoir que leur vie était en danger parce qu'on a laissé, je donne un exemple, on a laissé un cadavre à l'extérieur de leur cellule. Il y a un juge qui a accepté de les sortir de là sous paiement d'une caution pour les envoyer en house arrest, en maison de détention, où ils sont toujours aujourd'hui.
Est-ce qu'ils sont accusés de quelque chose?
Non, ils sont accusés de rien pour l'instant. Les informations que j'ai du département légal, c'est qu'en République dominicaine, ils ont le droit de détenir des gens pendant jusqu'à un an sans accusation.
OK, puis personne d'autre a été arrêté pour ça?
Autre que les 5 personnes en question, non. Il y a personne d'autre qui a été arrêté pour ça. Et puis, on semble vouloir piétiner un petit peu au niveau des procédures. Puis c'est ce qui motive notre sortie présentement. Parce que les 4 dernières apparitions en cours, la présence du traducteur qui est requise, le traducteur ne s'est pas présenté en cours. Donc, on a dû ajourner les sessions. Puis lundi dernier, la dernière séance, c'est le procureur qui ne s'est pas présenté.
OK. Puis en prison, l'équipage canadien là-bas en République dominicaine a reçu des menaces. Pourquoi?
Ben, c'est dur à dire, mais probablement qu'une des personnes liées à la cargaison n'était pas très contente qu'elle ait été saisie.
Il y a une vidéo qui montrerait une personne là, qui mettait de la drogue à bord de l'avion qui circule, semble-t-il?
Oui, c'est ça. On parle au conditionnel parce que c'est rapporté par le PDG de la compagnie Pivot. Moi, personnellement, j'ai pas vu la vidéo, mais il paraît que c'est assez explicite que ça montre qu'il y a une personne qui n'est pas reliée à l'équipage qui est en train de mettre les sacs avant même que l'équipage se présente à l'appareil.
OK.
Selon le PDG, ça les exonérerait d'emblée.
C'est pas la première fois que je vous entends là-dessus, mais c'est tout nouveau là que cette histoire-là commence à circuler. Est-ce que le gouvernement canadien a pris la parole pour parler de ce qui arrive à cet équipage canadien retenu en République dominicaine?
À ma connaissance, la première fois que ça a été parlé par le gouvernement canadien publiquement, c'est durant une commission sénatoriale il y a 2 semaines. Le ministre des Transports, Omar Agabra, était questionné par un sénateur conservateur. Puis, il a dit qu'il faisait tout en son pouvoir. Lui-même aurait rencontré l'ambassadeur dominicain à Ottawa. Et le premier ministre Justin Trudeau en aurait parlé avec le président dominicain au courant de l'été. C'est les seules choses. Sinon, c'est la classique, on fait tout en notre pouvoir. Mais force est de constater que les cadres diplomatiques présentement fonctionnent pas, ou du moins sont pas efficaces, parce que ça fait 7 mois et notre équipage est toujours là-bas.
Mais Louis-Éric Mongrain, vous êtes représentant de l'Association des pilotes de ligne du Canada. Sachant ça, est-ce que votre association va recommander peut-être à vos membres qui pilotent des avions de toutes sortes de pas aller en République dominicaine?
On n'est pas rendu là. Pour l'instant, on va dire aux membres qu'on représente d'être très vigilants, de s'assurer d'avoir une procédure en place avec leur compagnie aérienne au cas où une situation comme celle-là se présente. Et on va voir si notre sortie aide à faire débloquer les choses. Chose est certaine, si ça continue comme ça, c'est probablement une possibilité.
Mais M. Mongrain, quand vous dites que vous allez appeler vos membres à la vigilance, je veux dire, vos membres ne peuvent pas dormir sous l'avion pendant tout le temps où l'avion est à l'aéroport en République dominicaine?
Non, c'est vrai. C'est vrai. Comme je vous dis, j'appelle à la vigilance des membres parce que on n'est pas rendu à cette étape-là. On va donner une dernière chance au gouvernement de faire débloquer le dossier avant d'aller avec quelque chose de plus musclé comme ce que vous avez suggéré.
OK, intéressant. Parfait. Bien, on va suivre le dossier. Merci d'avoir été avec nous.
Plaisir. Merci de m'avoir reçu.
À la prochaine. Louis-Éric Mongrain, qui est représentant de l'Association des pilotes de ligne du Canada. Et là, il évoquait là cet équipage canadien qui est maintenant... je sais que c'est une saga, là. Ils sont passés de la prison à une sorte de maison d'arrêt. Une prison dominicaine. Pour avoir entendu des témoignages, c'est pas ben, ben le fun.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
On va aller à Atlanta. Valérie Beaudoin est là au lendemain des élections de mi-mandat. Salut Val!
Salut, Pat.
OK, tu t'en vas en Floride là, dans les prochaines heures. Mais écoute, on a beaucoup parlé depuis quelques jours de cette déroute appréhendée des démocrates aux élections d'hier. Ça s'est pas produit.
Non, pas de catastrophe, parce qu'il y avait des scénarios où on disait même qu'on allait perdre l'État de New York, que ça allait être gouverné par des républicains, qu'il allait avoir un siège au New Hampshire, au Sénat, qui passerait des démocrates aux républicains, que ça allait être une victoire écrasante, quand finalement, le décompte n'est pas terminé, mais selon les estimés, la Chambre des représentants, ça va être une mince majorité républicaine. Est-ce que ça va être 5, 6, 7, 8 sièges? C'est possible. Et le Sénat, c'est toujours pas décidé. Moi, la surprise, vraiment, c'est la Pennsylvanie. Je pense que ça, c'est le tout le monde s'entend pour le dire, parce qu'au beau milieu de la nuit, on a appris que Dr. Oz perdait contre John Fetterman, un siège au Sénat qui était aux républicains avant, qui repasse aux démocrates. Donc, pour eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'enligne vers une majorité encore, et peut-être même une plus grande majorité.
Et pour ce qui est du Sénat, là, on le sait, là, c'est serré dans plusieurs États. On pourrait être fixé juste dans quelques semaines.
Oui, dans 4 semaines même, parce que là, je me trouve au bon endroit pour ça. En Géorgie, l'élection, c'est particulier. Donc, dès que t'as pas 50% plus 1, tu t'en vas en deuxième tour. C'est juste en Géorgie puis en Louisiane qu'on a ça. Donc là, ce que ça veut dire, parce que là, il y a aucun des deux. Entre Herschel Walker, qu'on en parle souvent à l'émission, qui est contre le pasteur Warnock, il y a personne qui dépasse le 50% parce qu'il y a des indépendants qui vont gruger des voix. Et la prochaine élection, c'est le 6 décembre. Ça veut dire que tous les anciens président en fonction étant Biden, vont aller se pointer en Géorgie, vont aller à Atlanta pour essayer d'arracher des votes, parce que c'est tellement à égalité. En théorie, Raphaël Warnock, le démocrate, gagnerait si on était dans un système comme ailleurs. Mais comme c'est avec un deuxième tour, puis il n'y a jamais rien de simple dans les élections américaines, c'est le 6 décembre qu'il va avoir la prochaine élection. Ça risque de coûter cher. La course, c'était déjà plus de 100 millions de dollars pour cette course-là au Sénat. Puis là, t'as 4 autres semaines de campagne électorale. Donc, je pense que ça va être à l'avantage, par contre, des démocrates d'avoir cette élection-là dans 4 semaines.
Qu'est-ce que ça signifie, les résultats d'hier, là, de ce qu'on en sait pour l'instant, Valérie, pour Donald Trump?
C'est pas des bonnes nouvelles. Est-ce que c'est comme ça qu'ils veulent présenter? Non, parce que jusqu'à maintenant, lui, il dit que c'est une bonne soirée, qu'on va faire du recomptage, qu'il y a eu peut-être de la fraude électorale. Il a dit aussi, si je perds, ça sera pas de ma faute, si mes candidats perdent. Fait que déjà là, il a mis la table pour pas prendre du blâme du tout. Mais quand même, ça démontre que la qualité des candidats, c'est important. C'est pas juste la notoriété. Là, je pense à Dr. Oz et Herschel Walker, l'ancien joueur de football. Il y en a d'autres comme ça. Et des noms là qui reviennent souvent dans nos insolites. Lauren Boebert, la fille du Colorado là, qui travaillait dans un... Elle avait un restaurant là, avec des armes à feu. Là, les serveuses étaient avec leurs armes. Elle aussi, elle est proche de l'extrême droite avec Marjorie Taylor Greene. Elle a cru à des histoires de QAnon et tout ça. Elle est en train de perdre son siège au Colorado. Ça, c'est un dur coup pour les Trumpistes. Un autre gars au New Hampshire, Don Bolduc, qui se présentait justement pour le Sénat. Il croyait que l'élection de 2020 était arrangée avec le gars des vues, que c'était gagné pour Trump. Lui aussi, il est défait. Donc, même si Trump ne va pas l'admettre, je pense qu'il se sent un petit peu dans l'eau chaude, surtout avec un Ron DeSantis là, qui a tellement bien performé en Floride. C'est vraiment l'exemple de la réussite républicaine hier. La Floride qui est plus tout à fait mauve, mais qui est plus rouge.
Oui, rouge. Que j'étais par le passé. Rouge foncé, victoire de, je pense que c'est 20 points de pourcentage oui. Du gouverneur sortant DeSantis. Parle-nous de lui un peu. Il est le nouveau héros du Parti républicain, on dirait.
Ben oui, il est assez jeune. Il est en bas de 50 ans, là, si je me trompe pas. Il a été élu en 2018. En 2018, j'étais en Floride à l'élection de mi-mandat. Il y avait 30 000 voix entre les deux. Fait qu'on est entre le candidat démocrate. Donc là, il y a vraiment lui. Il s'est fait connaître. C'est lui qui a fait les lois dont c'est gay. On en parle. Okay, on peut parler d'homosexualité, d'orientation sexuelle et de genre dans des écoles primaires en Floride. C'est lui qui a puni Disney qui s'était mêlé de la politique. Donc c'est quelqu'un qui a des idées un peu à la Trump, mais disons qu'il en robe mieux. Il est présent mieux, il est moins impulsif, il est moins dans les déclarations choc que Donald Trump. Il est quand même charismatique. Donc, pour Trump, c'est la jeunesse, c'est un nouveau vent de changement. Puis les gens veulent des gagnants. Et Trump, est-ce que c'est un gagnant en ce moment? Là, peu importe ce que les gens pensent, il a perdu en 2020. Là, en ce moment, ses candidats, ça va pas bien. Les élections de mi-mandat en 2018, il a vraiment moins bien performé. Là, quand on pense au président, que Biden va performer en ce moment avec les résultats. Donc, c'est pas des super nouvelles.
OK, parle-moi d'un chauffeur que tu as croisé hier. chauffeur de taxi, je crois.
Tu sais qu'il m'arrive toujours des aventures,
toujours.
Moi, en voyage. Et là, ça, c'est la meilleure. Écoute, je me rappelle même pas, écoute, c'était tard. Il était minuit à peu près. Je pars d'une soirée électorale démocrate pour aller à mon appartement que j'ai loué ici. J'ai un chauffeur de taxi. Il vient me chercher dans sa belle Tesla. Il me dit que lui, il a réussi, que les médias, c'est des fausses nouvelles quand je dis que je suis journaliste, que finalement, c'est juste en Amérique qu'on peut réussir, mais à condition d'avoir énormément d'armes à feu. Sinon, ça va basculer dans le communisme et que les gangs, c'est bon qu'il y en ait aussi à Atlanta. Donc, c'est important d'être armé. C'est important. Trump, il y a des enregistrements secrets sur à peu près tous les dirigeants du monde. C'est pour ça que c'est le seul qui peut pas être acheté. Alors, j'ai tout ce discours-là pendant un bon 20 minutes. Il n'arrête pas de parler. Et il me dit à la deux reprises à la fin, il dit, moi, j'ai réussi. Puis imagine-toi, je sors de prison pour meurtre et je suis quand même capable d'avoir deux Tesla un autre véhicule. Fait que j'étais avec un gars qui se vantait d'avoir sorti de prison.
Et qui fait Tesla, Valérie? Musk, tout est dans tout!
Et qui aime les guns. Alors, il ne voulait pas me laisser sortir de la voiture pour me jaser ça pendant une demi-heure.
Fais du bien d'avoir un autre côté de médaille une fois de temps en temps.
On est content que tu sois là pour nous parler, Valérie. Ouf. Parle-nous.
Il m'a pas dit que c'est un tueur en série au moins. Fait qu'on est quand même correct.
OK, Joe Biden est en point de presse depuis quelques minutes, là.
Oui, parce que Joe Biden va dire, ben là, je peux pas l'entendre malheureusement, mais on s'entend que son discours va tourner autour de vous voyez, on a réussi à faire certaines victoires, c'est pas terminé. Le Sénat, ça pourrait même aller à la majorité démocrate, plus que la majorité en ce moment. On pourrait avoir 51 sièges, si ça se passe bien en Arizona, si ça se passe bien au Nevada. Je pense que les gens partout au pays peuvent quand même être fiers qu'on n'a pas eu le... Je sais pas si c'est de la fierté le bon terme, là, vous me corrigerez, mais il n'y a pas eu de bilan de violence qu'on pensait. Il y a quand même eu des petits pépins ici et là, mais ça s'est quand même bien déroulé les élections. Biden, là, s'il prend son petit verre de vin tranquille ce soir, là, il y a quand même eu un dernier bon 24 heures, là, à mon avis.
On va écouter le président américain, Valérie.
And it was a good day, I think, for democracy. And I think it was a good day for America. Excuse me, I have a little horse. Our democracy has been tested in recent years, but with their votes, the American people have spoken and proven once again that democracy is who we are.
Donc, M. Biden qui a dit, c'est une bonne journée pour la démocratie, une bonne journée pour les États-Unis. Et les Américains ont prouvé que la démocratie, ça fait partie de qui on est.
Oui, ben c'est justement ça. Et on avait la peur de Biden dans les derniers discours. C'est la fin de la démocratie. C'est peut-être la dernière élection démocratique. Donc, il y avait tout le temps ce discours-là un peu alarmiste. Et là, dans son discours, de dire, ben finalement, la démocratie, ça tient et ça va quand même bien.
Parce que on n'a pas noté, en tout cas, il n'y a pas d'histoire jusqu'à maintenant, le 24 heures plus tard, d'irrégularités qui sont sorties de bulletins rejetés. Pour l'instant, on n'a pas vu ça encore.
Il y a des théories autour de l'Arizona. J'ai des auditeurs qui m'ont d'ailleurs écrit pour me dire que j'en parlais pas, qu'il y avait eu de la fraude électorale en Arizona. Là, d'ailleurs, la candidate républicaine Carrie Lake qui avait déjà dit, là, je vais accepter juste si je réussis là dans son élection, a dit hier qu'il y avait des irrégularités, que les médias envoyaient des fausses nouvelles et qu'elle allait gagner. Donc, je pense que s'il y a un endroit à vérifier, ça va être l'Arizona. Ça va vraiment être à cet endroit-là. Peut-être qu'on va avoir des allégations de fraude. Il y a eu des pépins au Texas, là, mais c'est quand même limité.
Merci Valérie. Écoute, on te souhaite de pouvoir attraper ton vol pour la Floride.
Je l'espère, merci.
Attention au taxi.
Oui, t'en prends plus, là.
Va t'acheter un gun, je pense que c'est plus
oui,
sûr.
Un petit teaser.
C'était Valérie Beaudoin en direct d'Atlanta, en Géorgie. J'accueille Joël Nawej-Carlitage, collaborateur à notre émission. Joël, fan de la série The Crown?
Moi, je fais partie de ces énergumènes qui regardent pas trop les séries.
Ah!
Moi, je suis plus en mode création. Moi, okay. Je crée davantage que je consomme.
T'es de l'autre côté.
Exact.
Moi, je consomme la création des autres.
Exact, mais c'est ça, ça fait un bon tandem. Ouais. Alors non, je suis pas au parfum par rapport... Je fais partie de ces énergumènes. Alors, celles et ceux qui écoutent puis qui se sentent interpellés, j'ai jamais regardé Breaking Bad, j'ai jamais regardé How I Met Your Mother, tout ces trucs-là qui okay. sont un peu plus tendance. Moi, je suis vraiment en mode pour la créativité, ne pas obstruer ma pensée de ouais. ce qui a déjà été fait.
Tu peux pas plagier jamais.
Exact.
Parce que tout est toujours nouveau. Mais écoute, on t'aime quand même. Joël, on merci d'être là.
Pareillement, merci à vous.
On a pensé t'inviter parce que, bon, les auditeurs là ont probablement vu ces images-là. Ça a commencé à circuler il y a un peu moins d'une semaine. Jeudi dernier, il y a deux enquêteurs spécialisés du SPVM, spécialisés en vol de voitures, qui ont appréhendé au marché central un homme dont ils pensaient qu'il était en train de voler une Honda CR-V. Petit problème, c'était sa Honda CR-V. Ils l'ont menotté. Il y a des images de tout ça qui ont été filmées. Les policiers avaient oublié, semble-t-il, même la clé des menottes. Et tout ça a l'air d'un cas de profilage racial. Et c'est un autre cas qui, disons, met à mal la relation entre des Montréalais racisés et la police. Je voulais décortiquer ça avec toi. Comment tu as réagi quand tu as vu les images?
Moi, j'ai davantage lu et entendu parler de la situation. Je me suis abstenu de regarder.
T'as fait exprès.
Exact. J'ai pas voulu regarder les vidéos parce que je trouve que c'est trop mis de l'avant. Il y a trop de situations, que ce soit de profilage ou d'altercation, qui sont mises sur la voie publique davantage que d'images enjolivantes de la communauté noire, les communautés racisées. Alors moi, c'était un choix de ne pas consommer cette image, de pas donner des views davantage, mais de pouvoir venir ici en parler. Puis surtout, c'est vraiment dans cette idée de se vivre ensemble parce que moi, je crois en la bonhomie humaine, même si, comme on pourrait dire, les gens qui peuvent être un peu plus cow-boys, ben, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur non plus en tant que tel. Alors oui, malheureusement, il existe encore cette situation-là. Et puis moi, ma première réaction en entendant ça, c'était « here we go again ». Alors encore
ça
une
recommence.
Fois, ça recommence. Mais même pas que ça recommence dans l'idée où est-ce que ça n'a jamais arrêté non plus. Alors, c'est la réalité aussi. Et puis, ce cas de figure qui a eu la chance ou la malchance d'être filmé, d'être capturé par cet avènement de la technologie, met en lumière pour le grand public une réalité qui, pour longtemps, était, sous silence, en quelque sorte. Et puis, ce cas de figure-là est c'est la pointe du iceberg, en quelque sorte. Alors, c'est un cas qu'on voit, mais tous les autres qui sont pas filmés, tous les autres qui sont pas répertoriés, tous les gens qui peuvent aller demander assistance ou porter plainte, que ce soit devant les institutions des forces de l'ordre, mais qui ne se sentent pas écoutés ou pris au sérieux, puis qui abandonnent ou qui décident de trouver des avenues différentes pour soi, trouver justice en quelque sorte.
Quand tu entends parler de cas semblables, Joël, quand tu en vois, parce que tu dois tomber dessus aussi des fois, même si tu veux pas les voir, parce que des fois les images deviennent omniprésentes, La ligne entre, pour toi, le profilage et la simple erreur policière, est-ce que tu es capable de la voir?
Ben la ligne, c'est profilage, déjà, là, on parle d'un cas, le cas de figure de profilage racial. Il peut y avoir du profilage qu'on peut appeler social, socio-économique, que ce soit les personnes itinérantes aussi. Alors, on peut rentrer aussi le fait que, en termes d'intersectionnalité, si les personnes itinérantes, en plus, sont dites racisées, alors ça rajoute une coche dessus. Mais c'est une frontière quand même assez, parce que les gens ont à faire, disons, un certain travail, mais la question qu'il faut se demander aussi, c'est socialement, parce que ça, ce qui ressort, c'est vraiment la pointe, mais c'est un problème de fond. Alors, dans l'éducation, que ce soit à l'école de police, Nicolet, etc., puis aussi socialement, ce qu'on consomme, c'est quoi les images qu'on renvoie de certains groupes, de certaines communautés, à travers les films, à travers la musique, à travers nos médias et tout, qui viennent populer et créer des biais inconscients chez les personnes qui peuvent être appelées à être en situation de pouvoir ou un rapport de force. Alors, il y a une mince ligne entre ce qui pourrait être du profilage racial ou ce qui pourrait être une erreur, mais teintée de biais inconscients. Mais le profilage reste aussi très, sournois et latent, en quelque sorte.
C'est intéressant ce que tu soulèves là, Joël, parce que je me souviens d'avoir parlé avec un policier qui m'expliquait qu'il y a beaucoup de jeunes policiers qui arrivent à Montréal, plein de bonne volonté, et souvent qui sont pas venus à Montréal ben souvent dans leur vie. Et je veux pas généraliser, mais des fois, ils ont pas vu cette réalité-là d'une ville multiculturelle où il y a toutes sortes d'enjeux sociaux qu'eux vivaient pas dans la banlieue ou plus loin au Québec. On est loin de l'époque où les Montréalais devenaient policiers à Montréal aussi.
Exact. Puis moi, je pense que dans ce problème de fond, ça rentre en ligne de compte justement parce qu'il y a un manquement ou un écart en termes de sensibilité interculturelle. Vu que ces gens ne sont pas appelés à vivre la réalité ou à en être conscientisés, mais là, on te ship. Et puis surtout aussi, il y a un double volet à ce caractère aussi, c'est le fait que ils n'ont pas grandi ou gravité autour de Montréal ou au sein de Montréal, mais ils n'y vivent pas non plus. Alors, je fais mon shift à Montréal, disons ma besogne, pour ne pas utiliser un adjectif avant le mot besogne, et puis je repars, mais je ne vois pas les résidus de mes actions de manière, disons, manifeste. Alors moi, c'est ciao bye, punch in, punch out. Alors, c'est ce rapport-là aussi, le fait qu'il faut revenir à cette idée que les policiers d'une région doivent faire partie de cette région. Ils doivent être collés au tissu social en tant que tel.
Je vais te conter une anecdote, puis c'est drôle ou pas, là. Je pense que c'est vraiment aigre doux. Je connais un policier qui a grandi à Montréal, qui est un gars racisé, et il va conduire ses enfants à la garderie, puis il a pas déneigé toute sa voiture. Il se fait intercepter par un policier qui commence à lui dire, au Québec, on déneige nos chars. Et là, les flics, je te l'annonce, ils se reconnaissent. Ils n'ont pas besoin d'être... Ils se reconnaissent. Je ne sais pas comment. Et le flic a compris que le policier dans sa voiture, qui n'a pas l'air d'un Québécois, Canadien, Français, né, tremblé, baptisé, là, il a compris que c'était un policier. Et celui-là, il a dit, « Bon, OK, je te donnerai pas de ticket. » Et l'autre a dit, « Non, donne-moi-les mon ticket. » Mais c'est ce que tu racontes là, c'est, je pense que ça fait partie des préjugés d'avoir des policiers qui sont pas venus, qui habitent pas à Montréal, qui viennent pas de Montréal. À une époque, les policiers pouvaient encore habiter à Montréal. C'est rendu tellement cher qu'il y a bien des gens qui choisissent d'aller en banlieue.
Exact. Mais là, moi, chapeau ressources humaines, alors c'est dans l'idée du recrutement. Le recrutement de nos policiers, de la flotte étudiante qui veut
aller... Ce qui n'est pas
facile, semble-t-il. Exact, qui n'est pas facile, oui. Mais n'empêche qu'il y a une réalité où est-ce que, tu vas travailler à Montréal, ben il faut qu'on te shippe là pendant un an, tu fais ton un an de stage, je ne sais pas c'est quoi le cursus en tant que tel, mais dans cette idée, il faut que tu te colles à cette réalité, que tu prennes le pouls. Puis moi, ça fait écho aussi à cette distanciation entre le phénomène, disons, policier, parce qu'il y a des bons policiers, faut pas oublier, mais ces bons policiers ne parlent pas, ils ne parlent pas assez. Mis à part le chef du service de police de Longueuil, monsieur
Nadi Daguerre.
Exact, qui lui a mis de l'avant que oui, il y a un problème de fond, il faut qu'on travaille là-dedans, les biais inconscients et tout, mais existe cette distanciation entre moi qui, dans ma jeune trentaine, qui a connu, enfant à Côte-des-Neiges justement, les policiers, l'époque où les policiers étaient encore piétons. Alors, la police de proximité, où est-ce qu'ils stationnaient, puis ils se promenaient, puis ils étaient à même la masse, entre guillemets.
Ça, ça faisait une différence dans la perception?
Ça faisait une différence parce qu'il y avait une proximité. Alors, ils viennent, ils parlent aux gens, ils jasent, t'es capable de lire son badge. Et puis, ah, ça, c'est l'agent Langevin, ça, c'est l'agent Trudel, ça, c'est l'agent l'agent Lopez, etc. Il y avait ce rapport-là, ils viennent, ils parlent aux familles, etc. Ils marchent, ils gambadent, en quelque sorte, dans le quartier, sans pour autant être perçus comme une menace. Et puis, moi, je me rappelle aussi que ça pouvait arriver au parc Kent, rebaptisé parc Martin Luther King, qui a un terrain de basket. Puis un policier, ils vont être dans le secteur. « Ah, ben, hey, passe-moi la balle! » Tac, tac, tac. Puis ils font une game avec les kids. Après ça, il y a eu une époque où est-ce que ça a été coupé, à savoir si historiquement, il y a coupure de budget, etc. Parce qu'on est très fort au Québec dans les coupures de budget.
Oui, oui, oui.
Alors, on aime ça, les coupes. Alors, forêt boréale, tout le reste. Alors, dans cet ordre d'idées-là, il y a eu une coupure à un moment donné. Puis ces policiers n'étaient plus piétons. Ils étaient des patrouilleurs. On les voyait uniquement en véhicule. Baisse la fenêtre. Hey, fais pas ci. Alors là, ça crée une friction puis un côté méfiant aussi.
C'est intéressant ce que tu soulèves là, Joël, parce que moi, je me souviens. Puis il y a peut-être une raison opérationnelle, mais je me souviens de voir des policiers en voiture dans le parc Laurier, dans le parc La Fontaine, dans le parc du Mont-Royal et qui circulent là sur le gazon. Et comme je te dis, il y a peut-être une raison. Mais je trouve que ça envoie un message un peu agressif.
Exact, absolument. Moi, je suis absolument du même avis. Puis je trouve que c'est triste et dommageable pour toute une génération, si même pas deux, de jeunes adultes ou de jeunes adolescents qui ont connu que des policiers patrouilleurs et non pas des policiers de proximité.
Mais je me rappelle quand
des intervenants. Dans
exact.
Quand on était jeune, on disait, tu sais, fais attention, sinon la police va venir te chercher et élever ses enfants de même. Déjà, ils sont présentés comme méchants. Puis comme tu dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution? Je sais qu'on en voit de plus en plus, mais qu'il y a justement des Montréalais et des gens racisés dans la police. Le fait qu'ils connaissent le milieu.
Oui, mais absolument. Je trouve que ça pourrait aider, mais c'est une question de formation parce que dis-toi que si toi, t'es une personne dite racisée, puis t'as été élevé dans les mêmes carcans mentaux, tu vas profiler aussi de la même façon aussi. Puis surtout aussi dans cette idée où est-ce qu'il y a cette fraternité-là. Puis la loi, l'omerta en quelque sorte.
Qui existe dans beaucoup de professions. Et...
Exact. Où est-ce que, hey, si tu parles contre, ben il peut y avoir des réprobations. Mm-hmm. Puis on ne mord pas la main qui nous nourrit aussi. Alors c'est quelque chose à double tranchant en quelque sorte.
Joël, j'aimerais t'expliquer parce que bon, t'es un homme noir qui habite à Montréal, qui a grandi à Montréal. Puis moi, je le dis souvent à cette antenne-là, les seules fois où je me suis fait intercepter par la police, c'est parce que j'avais commis une infraction au code de la route. C'est tout. Moi, les interpellations aléatoires, les contrôles de routine, j'ai jamais vécu ça. Et les personnes que je connais qui sont racisées, ça arrive tout le temps. Ta réalité à toi, c'est quoi?
Ma réalité, c'est que, comme celle de plusieurs, ça fait partie, disons, un peu du... là, je le dis à la blague, mais c'est quelque chose... Ça prend un certain temps pour être capable, disons, d'en rire en quelque sorte, mais ça fait partie du baptême de feu de vivre en Occident.
Okay.
Alors, autant que ce soit au Canada, au Québec, aux États-Unis, en France, les banlieues parisiennes...
Les douanes, j'imagine.
Exact, mais dans cette idée-là, où est-ce que c'est... Moi, j'ai eu la chance, c'est ça, d'avoir des parents qui étaient conscients de l'historique ici. Alors, dès qu'on est de notre jeune âge, on nous mettait au courant que, hey, il y a tel truc, mais c'est pas pour autant qu'il faut généraliser tout le monde. Il y a du beau monde partout, mais existe ce qu'on pourrait appeler en bon espagnol des taouins. Puis les taouins, il y en a partout. Alors, dans cette idée-là, où est-ce que... Moi, je ce rapport-là avec le profilage, mais dès notre jeune âge, à Côte-des-Neiges, c'était déjà le cas. Alors moi, j'avais même pas 10 ans. On sortait de la piscine le soir, un ami et moi, et puis
la piscine municipale.
La piscine du quartier à Côte-des-Neiges, la piscine Kent. Puis on sort de là, puis il y a un policier piéton qui arrive, puis qui marche, puis qui hey, c'est quoi vos noms, qu'est-ce que vous faites? Coucher de soleil, on fait rien, on sort, on a nos serviettes, ben on sort de la piscine. C'est quoi vos noms? Et moi, c'est Nawej, lui, c'est Badji. C'est pas des noms, ça. Donnez-moi vos vrais noms.
C'est pas des noms.
Exactement. Alors, même le ton très nonchalant ou désobligeant aussi, dans l'idée où est-ce que tu leur donnes ton nom allophone, ils voulaient même pas te croire. Alors, nous, déjà jeunes, on l'avait compris, surtout avec les plus vieux aussi, tu t'inventes un nom à donner à la police, un nom qui sonne d'ici, entre guillemets.
Gérard.
Moi, c'était Max Frank. Okay. Parce que bizarrement, j'ai plus une tête de Max Frank. Mmh. Puis ça a passé.
C'est sûr que Gaétan, ça aurait pas passé.
Quoique, j'aurais pu être Gaétan adopté par des parents québécois blancs dits de souche.
Joël, en terminant, OK? Et puis on comprend que c'est un problème qui est vaste. On comprend qu'il y a plusieurs facettes à l'enjeu du profilage racial, du vivre ensemble. As-tu un conseil à donner de personne à personne aux policiers? On n'est même pas dans le systémique, on n'est même pas dans les procédures.
Moi, ce serait de faire la technique de peler les layers en quel le mot français
dans
méchant,
les pelures
en tant que telles, dans l'idée où enlevant tous les construits sociaux, le côté racial, puisque n'existe que la race humaine. Dans la terminologie, la race désigne des créatures d'une même espèce aptes à se reproduire ensemble et à laisser une descendance féconde. Alors, les êtres humains, peu importe notre différence physique, on est capable de se reproduire ensemble. Alors, n'existe que la race humaine. Alors, de faire ce constat-là, de peler, OK, j'ai ça comme appréhension à cause de sa couleur de peau. Ouais, mais en dessous de ça, c'est qui? En dessous de ça, c'est quoi? C'est la personne, c'est un être humain, puis se rappeler que c'est une vie. Et puis surtout, dans le point de vue des policiers, vous êtes censé être l'exemple. Vous êtes censé être les gens qui manifestent la bienveillance, la droiture, l'exemple pour les jeunes, l'exemple pour les personnes âgées aussi, en termes de sécurité. Et selon moi, tout le monde a le droit de se sentir en sécurité, de se sentir accepté, respecté, mais surtout humanisé. Alors, de voir l'être humain chez l'autre, puis surtout se demander, si c'était moi à l'inverse, est-ce que je voudrais être intercepté de la façon que moi j'intercepte? Mmh. Alors, de se mettre dans les souliers de l'autre, c'est ça vraiment l'inclusion, c'est de se regarder dans l'autre, ou comme dans le terme hip-hop que tout le monde connaît, qui est « yo », qu'on va utiliser à toutes les sauces, mais « yo », ça vient de l'espagnol qui veut dire « toi », qui veut dire « tu ». Alors, je dis « yo » parce que je me vois en toi. Je me vois en toi. Alors, de s'interrelier à l'autre.
C'est fun parce que Patrick, quand tu nous écris des textos, ça commence toujours par « yo ».
Ouais. Exact.
Ben écoute, je vais commencer à utiliser « yo ».
Exact, mais c'est ça, c'est de se voir dans l'autre puis se demander, si à l'inverse, moi, ça m'arrivait, est-ce que je le prendrais de telle façon? Non? Ben OK, pourquoi est-ce que je laisse ça passer pour quelqu'un d'autre? Ah, parce qu'il fait partie de cette communauté-là qui a été, disons, normalisée dans le côté souffrance de la chose, mais c'est un peuple. Tous les peuples sont forts, tous les peuples ont leurs aléas, mais c'est tous ensemble qu'on va pouvoir s'élever. Alors, il faut travailler dans ce vivre ensemble.
Yo, merci Joël.
Pareillement, yo!
C'était Joël Nawège, Carl Littage, collaborateur à notre émission.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Bon, c'est le diable est aux vaches sur certaines plateformes de réseaux sociaux là, très populaires, Facebook et Twitter. De chacun de leur côté ont leurs problèmes. Du côté de Twitter, ben la plateforme a été achetée par Elon Musk, le milliardaire, le titan des voitures électriques Tesla. Et chez Facebook, ben il y a une baisse des revenus, une baisse importante des revenus. Il semble avoir une désaffection des fans de Facebook pour la plateforme. Et Meta, la société mère de Facebook, a annoncé la suppression de 11 000 emplois. On va parler de tout ça avec Luc Dupont, professeur de communication à l'Université d'Ottawa, spécialiste de la publicité et du marketing. Salut Luc!
Bonjour Patrick.
Donc, commençons avec Twitter. Écoute, je suis curieux de t'entendre. Ça fait quoi, une semaine environ là, que Elon Musk, qui est un personnage haut en couleur, c'est un original, on va dire ça comme ça, a acheté Twitter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est un utilisateur frénétique de la plateforme.
Oui, puis le sentiment qu'on a, c'est qu'on réfléchit à haute voix. C'est-à-dire qu'il y a une journée, on t'annonce, par exemple, que ça va coûter tel prix pour le fameux petit tag bleu. Puis une autre journée, ben, on t'annonce que finalement, c'était peut-être pas 20$, ça va être plutôt 8. Une journée, on t'annonce aussi que peut-être, éventuellement, on va pas remettre certaines manœuvres qui, au moment où on se parle, ne sont pas autorisés. Puis une autre journée, on dit, savez-vous, finalement, on a peut-être fait une erreur. Moi, j'ai l'impression, bon, on réfléchit à haute voix d'une part, mais en même temps, je rappelle que Twitter, comme on l'a connu, là, c'est sûr qu'on verra jamais ça, parce que chaque jour que le soleil se lève, Twitter, au moment où on se parle, perd 4 millions de dollars. Donc, chaque jour que le soleil se lève, touc, millions.
Luc, faut le dire, Musk a acheté ça pour 44 milliards. En fait, il s'est fait enfoncer la vente dans la gorge parce que c'était son offre. Puis, on le forçait à l'acheter parce qu'il avait reculé. Mais ça n'a jamais été profitable, Twitter.
Non, et effectivement. Et si tu avais acheté les actions la première journée et tu les avais vendues, mettons, quelque part dans les derniers mois, tu aurais fait très, très peu de sous, pour ne pas dire à peu près rien. Il s'est fait avoir, n'ayons pas peur des mots, complètement. Bon, est-ce que c'est un moment de c'est un fantasme? Oui, ça arrive souvent au pays des multimilliardaires, parce qu'on parle quand même ici de quelqu'un d'ailleurs qui pour financer une partie des opérations, c'est pas essentiellement ça là, ou uniquement ça, mais a vendu pourquoi près de 40 milliards de dollars d'actions de Tesla depuis 12 mois là. Alors, on était à 37 ou 38 là, si je voulais te donner le chiffre un petit peu plus précis. Mais visiblement il s'est fait avoir. Je pense qu'il a un rêve. Je pense que son rêve, à la lumière de ce qu'il écrit depuis une semaine ou un peu plus, il y tient. Puis en même temps, bon.
Mais c'est quoi, Luc, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Tu dis, il a un rêve. Moi, je le regarde aller depuis plus qu'une semaine, là. On va dire qu'il est échevelé dans ses commentaires sur Twitter. Toi, ce que tu décodes comme étant son rêve, c'est quoi?
Ben, il y avait sa fameuse espèce de son de carrefour de l'opinion publique, des grands échanges. Ouais,
c'était déjà ça là à une époque.
Oui,
là.
Mais puis en même temps, ben Twitter a jamais été parfait non plus. Ça leur est arrivé parfois de faire disparaître des comptes, en tout cas à mon avis, qui auraient pas dû disparaître. Dans d'autres cas, ben il y avait des comptes qui étaient là qui auraient peut-être pas dû être là. Je rappelle toujours que faire le shérif c'est pas facile, faire la police c'est pas facile. Puis là on le voit à l'usage. Bon, on attendait officiellement la pré-élection américaine pour passer au fameux petit tag bleu. Mais on sent bien, là, puis on le sait pas trop. Bon, il y a une autre rumeur ces temps-ci. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui font des infolettres avec une application qui s'appelle Revue, qui est possédée par Twitter. Alors là, tu vois, momentanément, on a dit, ben peut-être qu'on ferait disparaître cette application-là. Il y a mille et une choses là, qui circulent. On est au pays de la rumeur, puis c'est jamais très rassurant parce qu'en même temps, tu veux faire des affaires avec une plateforme comme celle-là, puis à la fin, c'est ça l'objectif, là, au-delà des échanges qu'on peut avoir. Là, je rappelle toujours que quand ça coûte rien, c'est que c'est nous le produit. Là. Et dans le cas de Twitter, comme dans le cas de Facebook aussi, avec une annonce qui est absolument colossale ce matin, les 11 000 employés qui vont être remerciés, c'est 13 % de tous ces gens-là. Et puis, tu vois, on parlait de l'UBI il y a deux instants avec Elon Musk. Je te dirais qu'avec Mark Zuckerberg, on est aussi au pays de la l'UBI.
C'est quoi?
C'est
quoi?
Okay. C'est très étrange.
Ça, c'est comme son univers parallèle. Là,
dans son cas, à lui.
Comment on appelait ça avant, de la réalité virtuelle?
Oui, c'est une espèce de mix de jeux vidéo, de médias sociaux, de réalité virtuelle, le fameux casque de 3D, mais tout ça dans une espèce de poutine brasse un petit peu, ça donne le métavers. Mais c'est un produit qui n'existe pas au moment où on parle. Mais je rappelle à tout le monde qui nous écoute que techniquement, Facebook s'appelle maintenant Meta. Donc, l'entreprise porte le nom d'un produit qui n'existe pas. Ce qui, sur le strict plan du marketing, est assez étrange. Au début, il nous avait dit, on va mettre 10 milliards par année là-dedans pendant 5 ans. Puis là, récemment, il a changé sa chanson un petit peu. Il nous dit, on va mettre 10 milliards par année pendant 10 ans. Là, on est passé de 50 milliards à 100 milliards. En même temps, ben, les revenus publicitaires qui stagnent, d'ailleurs un problème qui ressemble étrangement à Twitter et qui ressemble étrangement à Snap et qui ressemble étrangement à Instagram, ce qui me fait dire, moi, que c'est à la mode de parler de la crise des médias traditionnels. Mais je pense qu'on peut annoncer officiellement aujourd'hui qu'il y a une autre crise. Et c'est une crise d'envergure qui n'est pas négligeable. C'est la crise des médias sociaux. Ils ont déjà eu des problèmes par le passé, problèmes d'éthique, problèmes de confidentialité des données, problèmes de ciblage, etc. Mais là, on est dans autre chose. On est dans quelque chose qui est financier. Puis tout ça à cause d'une plateforme un peu étrange qu'on n'a pas vu venir à peu près personne.
Mais
qui s'appelle TikTok.
OK, bon... Facebook a des problèmes financiers. Penses-tu que c'est ponctuel ou c'est justement, t'allais le dire, là, parce que TikTok a beaucoup de succès?
TikTok a beaucoup de succès. Entre autres, bon, l'instantanéité, c'est très, très 2022, j'aurais le goût de dire. Le potentiel créatif, il faut dire qu'il y a des choses là-dessus qui se font, qui sont, franchement, je dois dire, renversantes, là. Moi, mes meilleurs étudiants de 1992, quand j'ai commencé, rêvaient de faire de la pub. Aujourd'hui, ils rêvent de faire du TikTok, là. Puis je blague à peine parce que je voyais un sondage récemment, d'ailleurs, qui a été relayé à 60 Minutes dimanche soir. On demande à des Chinois, à des enfants chinois, qu'est-ce que vous rêvez de faire plus tard? Et ils disent, on veut être astronaute. On demande aux mêmes étudiants, aux mêmes jeunes, plutôt nord-américains, qu'est-ce que vous rêvez de faire plus tard? Ils répondent, on rêve d'être influenceur. Là, tu pourrais me dire, oui, mais TikTok, c'est pas chinois. TikTok, ils ont pas de TikTok en Chine. Oui, mais ils n'ont pas le même TikTok. Le TikTok chinois parle de science, parle de musée.
Mais...
Au bout de 40 minutes, il cesse de fonctionner. Le TikTok nord-américain, ben, c'est de l'opium. C'est à coup de petites vidéos de 10, 12, 15, 20 secondes.
Mais ceci étant dit, Luc, il me semble qu'il y a comme des portes tournantes de réseaux sociaux. Je me rappelle l'époque où Snapchat, c'était la prochaine affaire, ça allait être tellement gros. Instagram, encore populaire. Je me rappelle l'époque où on disait, hey, Facebook, ça va jamais mourir. te pose la question, Facebook va-t-il exister dans 10 ans?
Je pense qu'il va exister, mais tôt ou tard, Zuckerberg devra regarder la réalité en face et se poser la question, est-ce qu'au fond, le métavers et Facebook, c'est pas deux entreprises? Et puis, je t'entendais il y a deux instants parler du métavers en disant c'est pas jeu vidéo puis réalité virtuelle. Ben là, à partir du moment où on brasse des cartes comme ça, le danger, c'est qu'à un moment donné, on s'égare. Puis là, ici, là, c'est ce qui semble se passer. Puis ajoute à ça, ben, le coup de Jarnac d'Apple, qui est une des grandes opérations que j'ai vues de marketing de ma vie, là. C'est ce qu'Apple a fait avec son système d'exploitation. Dire dans un premier temps, on va limiter le ciblage. Donc, on va autoriser les gens à dire, dorénavant, je ne veux plus que Facebook puisse me suivre. Et quelques mois plus tard, commencer à vendre la pub. Je parle d'Apple.
Oui. En fait, c'était pas des considérations éthiques puis de vie privée pour protéger les usagers d'Apple. C'était pour mieux vendre soi-même de la pub aux usagers d'Apple.
Et ça marche très, très bien. N'importe qui va là-dessus ces temps-ci s'est aperçu que, lentement, mais sûrement, la publicité prend de plus en plus d'espace. Un peu à l'instar, d'ailleurs, d'Amazon. Quand tu fais tes recherches, les réponses qu'on te donne sont souvent des recherches payantes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en haut, il y a quelqu'un qui est en bas, il y a quelqu'un qui est recommandé, il y a quelqu'un qui est le produit de la semaine. Mais tout ça, maintenant, c'est des espaces qui sont vendus. Alors, un dans l'autre, ben un espace ou un univers publicitaire qui est de plus en plus compétitif. En même temps, des nouveaux joueurs comme TikTok. En même temps, ben des plateformes un peu plus traditionnelles. Puis je pense qu'on peut maintenant dire que Facebook est une plateforme traditionnelle, beaucoup plus âgée aussi quand tu jettes un coup d'œil sur le profil. Et des annonceurs qui disent, ben c'est-tu moi ce à qui je veux parler? Je veux parler aux plus jeunes, je veux parler aux faiseurs de tendance. Puis ça donne que ben ils sont un petit peu plus du côté de TikTok que du côté de Facebook.
Merci beaucoup, Luc. Toujours un plaisir.
C'est un plaisir.
Luc Dupont, professeur à l'Université d'Ottawa.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.